Il est 8h23.
C'est la journée spéciale.
Journée, les enfants d'abord.
Ouais.
Oui, magnifique, et avec Léa Salamé. Dans le cadre donc de cette journée spéciale Les Enfants d'abord, que vous propose France Inter, Combini et l'UNICEF, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Vos questions, vos témoignages, vous êtes déjà nombreux au standard 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Adrien Taquet, bonjour.
Bonjour.
C'est donc aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant et le 30e anniversaire de ce texte essentiel qu'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Emmanuel Macron va s'exprimer ce matin sur le sujet. Et nous sommes ensemble, ici en studio à Inter, pour détailler le plan de lutte contre les violences faites aux enfants que vous avez élaboré pour les deux années qui viennent. Car les enfants sont des victimes particulières, souvent invisibles, oubliées, car ils ne peuvent se défendre eux-mêmes, ils ne peuvent prendre la parole et faire valoir leurs souffrances et leurs droits, au moins de manière publique. Les aider tout simplement alors qu'ils sont parfois pris au piège, est-ce le sens de votre démarche ?
Absolument, je voulais avant tout vous remercier d'une part pour votre invitation et pour cette journée spéciale. Radio France, France Inter, tout comme France Télévisions, le service public, en cette journée joue un rôle important. C'est votre rôle, je trouve, et il faut le saluer. Effectivement, il y a ce paradoxe, cette situation incroyable. On aime se voir comme un pays, comme un peuple avancé, éclairé. La nation des droits de l'homme, et pourtant on accepte encore aujourd'hui que nos enfants vivent une situation intenable, insupportable. Ce sont près de 130 000 enfants chaque année qui sont victimes de violences sexuelles. C'est un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups d'un de ses parents, et c'est probablement même 2 par semaine. On estime qu'il y a 6% de la population française qui est victime d'inceste, et qu'aujourd'hui il y a 10 000 enfants, de nos enfants, hein. Je ne parle pas de migrants venus d'un pays un peu lointain, exotique, qui serait sur les grands boulevards. Je parle de nos enfants dans nos collèges et dans nos lycées qui sont victimes de prostitution infantile. Alors c'est des chiffres un peu froids, mais je veux les répéter systématiquement, parce que devant cette situation, la question de l'enfance, des violences faites aux enfants, devrait faire la une des journaux tous les jours qui passent. Donc oui, le sens de ce plan, qui n'est que le deuxième plan, qui prend la suite du seul premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants, qui date de 2017, il a pour vocation de protéger, de mieux protéger, en tout lieu et en tout moment, les enfants.
Adrien Taquet, soyons précis, de quoi parle-t-on ? Il y a des violences visibles et d'autres qui sont invisibles, et c'est un peu ça le problème. Alors on parle de quoi ? De harcèlement, de brimade, de châtiment corporel, d'exposition à la pornographie, le fait d'être témoin de violences conjugales entre les parents, d'infanticide. Définissez tout ce qui rentre dans le mot « violences faites aux enfants ».
Eh bien, c'est tout cela. C'est tout cela, effectivement, vous l'évoquez, la violence, l'exposition à la pornographie qui concerne près de 50% des enfants de moins de 12 ans aujourd'hui dans notre pays, c'est une forme de violence. Oui, un enfant, dans le cadre de violences conjugales, n'est pas un simple témoin, c'est une victime. Et c'est tout le sens de la démarche que nous menons depuis le de Grenelle, et c'est assez inédit avec Marlène Schiappa, pour prendre en considération la question de l'enfant dans le cadre des violences conjugales. C'était un oublié et un impensé total jusqu'à présent.
Qu'est-ce que vous
oui,
proposez
c'est le harcèlement.
On va voir tout ce que vous proposez, mais précisément, parce que vous soulignez ça, et c'est vrai qu'on attend les conclusions dans les prochains jours du Grenelle des violences faites aux femmes, on en parle beaucoup sur l'antenne. L'enfant qui assiste à la scène de voir son père frapper sa mère.
Dans 80%.
Qu'est-ce que l'État peut faire ?
Déjà, reconnaître l'enfant comme une victime. Dans 80% des cas, effectivement, les femmes qui appellent le 39-19 sont par ailleurs des mères. C'est considéré, le mot est assez fort, qu'un mari violent ne peut pas être un bon père. Et donc la première mesure qui a d'ores et déjà été annoncée et qui sera confirmée dès le 3 septembre, c'est une suspension de l'exercice de l'autorité parentale dès le féminicide ou dès une tentative de féminicide avant même un prononcé de peine. Voilà, donc c'est la protection de l'enfant. Par ailleurs, il y a toute une question autour de la parole de l'enfant, parce que 80% des violences faites aux enfants, globalement, ont lieu dans le cercle intrafamilial. C'est ça toute la difficulté. Vous avez un enfant qui est pris dans une espèce de conflit de loyauté entre un de ses proches, un de ses parents parfois, qui est censé être un être aimant et qui pourtant est victime de violences et qu'il va protéger Et c'est normal. Un enfant dénonce très rarement ses enfants. Donc il faut ses parents. Il faut donc libérer cette parole-là.
Poursuivons sur le constat, Adrien Taquet, avant de voir les propositions que vous formulez. Selon l'Observatoire de la protection de l'enfance, en 2016, 131 infanticides ont été commis, 67 dans le cadre intrafamilial. Le dernier rapport de l'IGAS 2018 constate que la moitié des enfants tués dans le cadre familial était suivi par les services sociaux. Comment est-ce possible ?
Bah effectivement, c'est le constat qui est fait. Qu'est-ce que dit ce rapport ? C'est l'absence de coordination entre les différents professionnels qui interviennent dans ces genres de situations. Les services sociaux d'un côté, les services d'enquête de l'autre, la justice, l'éducation nationale parfois. Le défaut de coordination, le défaut de culture commune, ça semble être du bon sens, hein. Mais déjà, quand vous mettez des gens autour de la table, quand vous développez une culture commune, quand vous faites des formations communes, croisées, et c'est une des mesures dans le plan que nous allons instituer dès 2020, pour que l'ensemble de ces professionnels, lorsqu'ils sont confrontés à une situation, puissent partager la même acception, perception de ce qui est en train de se passer. Ça vaut pour la justice de la même façon. Vous savez, aujourd'hui, les juges aux affaires familiales et les juges des enfants ne communiquent pas suffisamment. Donc vous avez des situations de violence conjugale où un enfant est impliqué, et puis par ailleurs, vous pouvez avoir des situations où l'enfant est en danger. Et là aussi, de chaque côté, alors qu'on est au sein d'une même juridiction, les situations ne sont pas forcément...
Pardon d'être un peu brutal, mais c'est pas une affaire de communication. Quand Jacques Toubon, le défenseur des droits, nous dit que beaucoup, une majorité, une moitié des violences faites aux enfants viennent des professionnels qui sont censés les protéger.
Alors, c'est
possible. On a l'impression que c'est ingérable, on est impuissant face à ça. C'est celui qui est censé protéger l'enfant des violences,
est lui-même violent. Et il n'y a pas de fatalité. Le rapport annuel, cette année, de Jacques Toubon portait effectivement sur les violences en institution. Je rappelle quand même que 80% des violences faites aux enfants ont lieu en famille. Mais oui, vous avez raison, il n'est pas admissible qu'un lieu où l'enfant est censé se développer et s'épanouir, l'école, puisse laisser 700 000 enfants être victimes de harcèlement scolaire. Et c'est tout le sens du plan que Jean-Michel Blanquer a présenté en mai dernier contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Il n'est pas admissible, entendable, que des institutions censées protéger les plus vulnérables, qu'il s'agisse d'institutions pour les enfants en situation de handicap ou les institutions de l'aide sociale à l'enfance, puissent laisser passer de la violence. De la violence d'adultes vis-à-vis d'enfants, mais aussi de la violence entre enfants.
Alors, est-ce qu'on peut prendre le cas particulier de la petite Evaëlle, 11 ans, beaucoup parlé, victime de harcèlement, qui s'est suicidée. Les parents ont porté plainte contre l'enseignante dont ils estimaient qu'elle n'avait rien fait pour protéger leur fille. Cette enseignante a été placée en garde à vue, ce qui est rarissime dans les cas de harcèlement. Est-ce que la responsabilité des enseignants peut et doit être désormais engagée ?
Il y a une enquête judiciaire qui est donc lancée de par cette plainte et puis cette mise en garde à vue, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ce qui est évident et ce qui change ces dernières années, c'est qu'il y a une mobilisation générale de l'institution et l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale face à ce qui est un véritable fléau. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé un certain nombre de mesures, notamment la mise à disposition. Les professionnels sont souvent assez désemparés face à ces situations-là. Il faut le reconnaître. Donc il y a des programmes clés en main qui sont mis à disposition aujourd'hui des établissements, pour les professeurs et les directeurs d'établissement, mais aussi pour les élèves, pour sensibiliser les élèves, avec 10 heures de sensibilisation aux questions de harcèlement chaque année, pour qu'ils aient conscience de ça. Pour les parents, de la même façon, parce que vous savez, il y a un peu de la responsabilité des parents, parfois. Certains endroits, c'est mieux d'être parent d'un petit caïd que d'un gamin harcelé. Donc, la responsabilité, elle est totale. Et effectivement, les professionnels de l'institution ne peuvent plus être sourds à des souffrances exprimées, il faut être en mesure de prendre en charge et d'accompagner. Et d'ailleurs, dans les cas les plus complexes, car il y a des cas très complexes, le ministre de l'Éducation nationale a mis en place des équipes externes, pluridisciplinaires, des pédagogues, des psychologues, des assistants sociaux, pour pouvoir intervenir sur les situations plus complexes et accompagner les professionnels qui parfois se sentent seuls face à cette situation.
Jacques Toubon et Geneviève Avenard, la défenseur des droits des enfants, demandent la vérification systématique du casier judiciaire avant d'embaucher une personne pour une mission auprès d'enfants. Aujourd'hui, s'il le demande, est-ce facultatif ? Première question. Et allez-vous appliquer cette recommandation ?
Alors écoutez, dès ma nomination, dès avant le rapport Toubon-Avenard, dès avant les dernières informations qui sortent sur l'affaire Jonzac,
en rencontrant ce que c'est,
l'affaire Jonzac, vous savez, cette affaire de ce médecin pédophile dont... certain nombre de victimes sont en train de déposer plainte. C'est probablement une des plus grandes affaires de pédophilie, puisqu'on parle de 200 victimes potentielles. Et c'est une personne qui avait été déjà condamnée en 2005 pour consultation de fichiers pédopornographiques. Bon. Dès ma nomination, en rencontrant les associations, en rencontrant des anciennes victimes, mais je me permets de la citer, mais en l'espèce Andréa Bescon, la réalisatrice des Chatouilles, de la pièce de théâtre, m'ont alerté sur la question du fichier, le contrôle des antécédents judiciaires des personnes en contact avec les enfants. Et j'ai très vite eu le sentiment qu'il y avait un sujet à la fois sur la question des conditions d'inscription, qui est inscrit à ce fichier, et des conditions de consultation de ce fichier, et c'est ce que met en exergue le défenseur des droits. Puis plusieurs mois, nous travaillons avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, je veux saluer son volontarisme
d'accord,
sur
mais
ce
y aura
sujet-là,
un fichier...
pour renforcer... Il y a un fichier déjà qui s'appelle oui. le FIGES,
oui.
où sont inscrits les auteurs de violences sexuelles. Pas de tout. Donc nous allons renforcer les conditions d'inscription à ce fichier. Le président de la République va faire un certain nombre d'annonces à l'UNESCO. Vous l'avez évoqué tout à l'heure d'ici une heure et vous comprendrez que je lui réserverai la primaire de certaines annonces. Mais nous allons renforcer les conditions d'inscription à ce fichier. Et par ailleurs, je partage évidemment le constat et la nécessité exprimée par le défenseur des droits, il faut qu'il y ait une systématisation plus grande. Aujourd'hui, c'est une faculté qui est donnée à tous les employeurs publics. Que se passe-t-il ? Tous ne le font pas. Alors, moi, je me méfie beaucoup, et c'est un ancien législateur qui vous dit ça, de dire il faut mettre dans la loi, pour 5 ans après se rendre compte que ce n'est pas appliqué. Je pense qu'il faut que l'on regarde qu'est-ce qui fait obstacle ? Est-ce que les gens connaissent la loi ? Qu'est-ce qui fait obstacle à la consultation ? Dans quelles conditions cela se fait pour que les réponses arrivent rapidement ? Là aussi, il faut qu'il y ait des actions qui vont être menées en ce sens-là.
Et vous souhaitez porter à 5 ans d'emprisonnement ? C'est ça, une des annonces du président de la République tout à l'heure. Vous souhaitez porter à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende la peine encourue pour consultation habituelle, acquisition ou détention d'une image pédopornographique contre 2 ans aujourd'hui.
On
c'est
veut
ça
effectivement durcir
vous
un
allez
certain
alourdir.
Nombre. On va alourdir effectivement un certain nombre de peines et ça va avoir quelques effets sur la question du fichier des agresseurs sexuels que vous évoquez.
Vous ne la mettez pas dans la loi.
Ah ça
le fichier.
La consultation, on va voir avec l'ensemble des administrations, leurs administrations de tutelle, les associations qui ont des agréments ou qui ont des délégations de services publics, pourquoi, si elles connaissent la loi, est-ce qu'elles consultent le fichier, pourquoi elles ne le consultent pas, et pour atteindre cet objectif posé par le défenseur du droit d'une systématisation du contrôle. On ne peut pas admettre que nos enfants puissent être en contact avec des gens qui ont, dans le passé, eu des comportements... commis des crimes sexuels.
Énormément de questions au standard. On va donner bien sûr la parole aux auditeurs de France Inter. Une question encore sur les propositions tout bon Avenar. Il demande de renforcer les équipes qui gèrent le numéro dédié, numéro de téléphone dédié aux enfants en danger, le 119. Aujourd'hui, il y a seulement 43 écoutants pour 1300 appels par jour.
Ouais.
43 pour 1000 appels. Combien d'écoutants allez-vous recruter? Quel budget allouer à ce qu'il y ait une porte d'entrée tout de même
crucial. On parlait de libérer la parole de l'enfant, c'est ça.
Mais il faut bien que quelqu'un l'écoute, la parole libérée.
C'est exactement ça. Mais déjà sur la libération, j'aimerais, petit propos liminaire, aujourd'hui en France, seul un Français sur quatre face à des suspicions de violence faites à un enfant, vous savez quand vous entendez ces cris le soir de l'autre côté du mur, seul un Français sur quatre appelle le 119 ou appelle un service d'urgence. Donc la responsabilité, elle est aussi collective. Et il n'est pas question de délation, et il n'est pas question de dénonciation. Face à la situation que vivent nos enfants aujourd'hui, quand il y a un doute, on appelle. Et ce sont des professionnels qui vont évaluer si l'enfant est véritablement en danger.
Mais, il faut quelqu'un derrière l'appareil.
Il me semble important de dire ça.
De ce qu'on a lu, certains appellent, on leur dit « rappelez plus tard, il n'y a personne pour vous parler ».
Vous avez tout à fait raison. Je veux que vos éditeurs aient conscience aussi de ça.
Qu'il faut appeler, malheureusement.
Chacun doit appeler. Et alors, vous avez raison, il y a quelque chose qui est totalement inadmissible, c'est que dans 2 cas sur 3, tout est décroché parce qu'il y a un préappel. Mais dans 2 cas sur 3, on vous demande de rappeler plus tard. Alors, évidemment, les situations d'urgence ou quand c'est un enfant qui appelle, c'est pris en charge. Mais ce n'est pas admissible que dans 2 cas sur 3, on vous demande de rappeler. C'est la raison pour laquelle nous allons augmenter les moyens du 119. L'État et les départements, nous allons rajouter 400 000 euros supplémentaires, ce qui va permettre le recrutement de 5 écoutants supplémentaires, mais aussi d'embaucher 3-4 supplémentaires qui vont permettre d'une part d'accélérer la digitalisation du service, la mise en place d'un chat, d'un formulaire en ligne, mais aussi...
Donc on passe de 43 écoutants à 48, c'est ça ?
Absolument, ouais.
Et ça suffit, ça ?
Écoutez, ça a été travaillé avec le conseil d'administration, même du 119, du JPED, et c'est les évaluations sur lesquelles nous sommes arrivés. Nous ferons une évaluation d'ici un an, puisque la digitalisation avec l'arrivée du chat, le formulaire en ligne, va aussi permettre normalement
de dériver une partie du... Est-ce que vous pensez qu'en augmentant 5 personnes, on pourra passer de 2/3 des appels où on vous dit de rappeler plus tard à 0 appel où on vous dit de rappeler plus tard et on vous prend votre...
En tout cas, le zéro appel sans réponse, c'est l'objectif qu'on se fixe. C'est 15% d'effectifs en plus. Il y a la digitalisation. On fera une évaluation dans un an. L'objectif, c'est d'arriver à zéro appel. Enfin, je veux dire, c'est clair et net là-dessus. Zéro appel sans réponse.
C'est là, et je pense que les auditeurs ont compris, le bât blesse, c'est que les paroles sont fortes et ambitieuses ce matin dans votre bouche, dans celle du gouvernement et dans celle d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Mais après, il y a l'argent, il y a les moyens. Vous présentez donc un plan de 80 millions d'euros. Les associations sont sévères. Pas de volonté politique, dit le Conseil national de protection de l'enfance. Ce n'est pas le grand soir de la protection de l'enfance, dit le vice-président du CESE. 80 millions pour un tel problème de société, est-ce que c'est pas très 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 insuffisant?
Alors, si vous me permettez... deux, trois impressions de ce que vous dites. Là, c'est pas 80 millions. C'est 80 millions, c'était le plan de prévention et de protection de l'enfance que j'ai présenté le mois dernier sur la réforme de l'aide sociale à l'enfance. Ça ne concerne pas les mesures annoncées aujourd'hui. Et ce n'est pas le Conseil national de la protection de l'enfance qui s'est prononcé. C'est un de ses membres qui s'est prononcé sur l'insuffisance.
Enfin, vous comprenez bien l'idée, 80 millions.
Oui, non, mais juste, soyons juste pour être précis. Écoutez. C'est 80 millions supplémentaires. C'est 100 millions supplémentaires pour la santé mentale, dont 20 millions supplémentaires pour la pédopsychiatrie. C'est Nicole Belloubet qui annonce dans le cadre de la réforme de l'ordonnance de 45 la création de 70 postes de juges des enfants supplémentaires et de 100 greffiers supplémentaires dans les juridictions. C'est tout l'investissement de Roxana Maricéanu pour lutter contre la violence dans le sport. Bref, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de moyens et ce n'est qu'un début. Et c'est mon job de faire en sorte que l'ensemble des ministères soient mobilisés pour l'enfance. Autant de moyens qui ont été mobilisés pour... Par ailleurs, vous savez, moi, j'aime pas rentrer par la question des moyens parce que c'est aussi la meilleure façon de ne rien faire. Les moyens, ça doit être la finalité du sens que l'on veut donner à notre action. La protection de l'enfance, c'est 8 milliards d'euros en France. C'est 6 milliards d'euros qui sont sur le placement. Moi, je pense qu'il y a une vraie question qui est sur les pratiques. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre davantage d'argent sur la prévention plutôt que sur le placement quand les situations sont déjà dramatiques? Ça, c'est une vraie question sur l'allocation des moyens plus que sur les moyens en tant que tel.
Et il y a beaucoup de questions au standard, je vous le disais. Madeleine, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Inter, on vous écoute.
Alors moi, je voulais poser la question suivante à Monsieur Taquet.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait qu'en 2019, on puisse encore considérer qu'un enfant de 13 ans, on le voit par les décisions de justice, puisse être consentant à un acte sexuel avec un adulte? Qu'est-ce qui fait, en fait, que la loi n'a pas instauré de seuil d'âge, puisqu'on voit que la loi Schiappa n'a rien changé en ce sens aux décisions de justice? J'invite par ailleurs tous les auditrices et tous les auditeurs à marcher samedi 23 novembre contre ces violences sexistes et sexuelles à Paris, à Opéra. Et vraiment, nous attendons des réponses du gouvernement sur ce point précis.
Merci Madeleine. Adrien Taquet vous répond.
Bonjour Madeleine. Oui, vous référez effectivement à l'article 2 de la loi Schiappa qui avait fait l'objet de beaucoup de discussions à l'époque. Rappelez déjà quand même que cette loi a durci les peines encourues lorsqu'il y avait des violences faites sur mineurs et par ailleurs que nous avons reculé le seuil d'imprescriptibilité pour les viols commis sur mineurs sous l'impulsion notamment de Flavie Flamand.
Sur la question du consentement.
Sur la question du consentement, écoutez, moi, je me déplace beaucoup, vous l'imaginez bien, aux quatre coins du territoire. Les retours que j'ai des différentes juridictions et des juges sont plus contrastés que ce que vous évoquez. Un certain nombre de juges me disent que la correctionnalisation qui a été souvent dénoncée permet d'aller plus vite, de condamner davantage, parce que ce sont des juges professionnels qui portent les condamnations. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les ministres, Schiappa et Belloubet, s'étaient engagés au moment du vote de la loi à ce qu'une évaluation concrète sur les décisions de justice qui sont rendues soit effectuée au bout d'un an d'application de cette loi. Nous y arrivons, la députée Alexandra Louis a été missionnée en ce sens, les ministres se sont engagés à écouter ce qui sera tiré de cette mission, nous y sommes.
François est en ligne depuis Montreuil. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, alors, on vous écoute, François.
Merci. Alors, une remarque, je constate que sur la façon dont vous balayez les problèmes de moyens, c'est cohérent, c'est pour ça que vous félicitez M. Blanquer, alors qu'il diminue le nombre d'adultes présents dans le second degré, ou avec les réseaux sociaux, le problème d'harcèlement est dramatique. Et on sait que plus il y a d'adultes plus on peut lutter contre le harcèlement. Ça, c'était une remarque. Mmh. Maintenant, ma question. Les Nations Unies considèrent que la rétention de mineurs est contraire au droit supérieur ou à l'intérêt supérieur de l'enfant. Je voudrais connaître votre position et donc savoir simplement, est-ce que vous êtes pour l'intérêt supérieur de l'enfant ou vous n'êtes pas pour l'intérêt supérieur de l'enfant et donc vous trouvez ça normal qu'on puisse avoir des mineurs en centre de rétention en France. Mmh.
Merci François pour cette question. Nombreux auditeurs vous la posent également. Adrien Taquet.
Bonjour François. Écoutez, je pense pas que je balaye la question des moyens. Vous permettrez de considérer que c'est un peu lapidaire comme
sur celle de la rétention des mineurs migrants.
Sur la rétention des mineurs, effectivement, c'est un sujet qui avait été soulevé et je faisais partie. À l'époque, j'étais député et je faisais partie des députés qui avaient soulevé précisément cette question. Le ministre de l'Intérieur, à l'époque, s'était engagé à ce que ce dispositif soit évalué et puisse donner lieu à des évolutions. C'est le travail qui a été effectué notamment par un député qui s'appelle Florent Boudier, un travail remarquable en lien avec le ministère de l'Intérieur. Florent Boudier dépose ce jour, je crois, une proposition de loi pour revenir sur les conditions actuelles de détention des mineurs dans les centres de rétention administrative avec d'une part une intervention du juge des libertés plus courte dans un délai de 12 heures, c'est ce qui est dans sa proposition de loi en tout cas, et un délai de rétention possible diminué puisqu'il est de 90 jours aujourd'hui, c'est le droit commun, à 48 heures sauf erreur. Vous savez monsieur, j'étais par ailleurs, vous citez les Nations Unies et vous avez raison, et bien évidemment l'intérêt supérieur de l'enfant prédomine. J'étais la semaine dernière au Conseil de l'Europe, et j'ai vu notamment le président de la Cour européenne des droits de l'homme, et vous le savez, la France n'a jamais été condamnée sur cet aspect-là, puisqu'il y a une notion de proportionnalité et qui est prise en considération, et la France n'a pas été condamnée, mais je pense, puisque vous me posez la question directement, que les propositions contenues dans la proposition de loi du député Boudier vont dans le bon sens pour le bien des enfants.
Est-ce qu'on a Christophe en ligne ? Oui, on a Christophe. Bonjour et bienvenue.
Bonsoir François Père, félicitations pour vos résultats et depuis que je vous écoute, ça fait 5 ans maintenant, je deviens plus intelligent chaque jour.
C'est très gentil, merci. On vous écoute, posez votre question.
Nous pas.
Alors, en fait, je suis surpris un petit peu encore de ce discours de « nous allons faire des choses, nous allons faire des choses ».
Non, nous faisons des choses.
Oui.
Allez-y, Christophe.
Alors, ça fait 5 ans que mon fils, suite à une séparation malheureuse, très intelligent des parents, moi en l'occurrence, notre gamin s'est retrouvé dans la rue. L'ASE a pris en charge le dossier, ça fait 5 ans. Le gamin n'a jamais autant été violenté que depuis qu'il s'est retrouvé à l'ASE. Il a été en centre éducatif fermé, on a porté plainte parce qu'il était massacré par d'autres gamins, il y avait deux autres gamins à être torturés, les éducs qui surveillaient la nuit ne faisaient pas leur boulot. Il y a déjà des choses en place. Pourquoi est-ce que ce qui est en place ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que ces organismes qui font du bien normalement broient les parents? Ils nous broient, ils nous jugent comme parents crétins, comme parents pas responsables.
Christophe, permettez-moi une question. Pourquoi et comment votre fils s'est-il retrouvé à la rue?
Tout simplement parce que nous n'avons pas été intelligents de notre séparation, la maman et moi. Et le gamin a préféré, sans doute, plutôt que nos chocs continuels, de se retrouver. Il a pris sa part de liberté en disant « je serai apaisé dans la rue ».
Il a quel âge?
Il a 17 ans maintenant, donc c'était à 12 ans. Il a sorti de 6e, en fait. Il a arrêté l'école, on ne pouvait plus rien faire avec lui, il ne voulait plus rien savoir. Mmh. On l'a pris, c'est parce que nous n'étions pas capables de nous séparer normalement. Enfin, peu importe. J'ai croisé des éducateurs, sérieusement, sur 5 ans. On a croisé 20 éducateurs, 20 fois leur raconter notre histoire. Mmh. Et il s'avère que sur le nombre, il y en a eu 3 qui ont pris vraiment conscience du problème avec le gamin. Et les autres étaient là pour un métier. Je comprends pas que... Ça fonctionne pas.
Merci Christophe pour ce témoignage rude. Adrien Taquet vous répond.
Non mais ça permet, merci pour votre témoignage et puis qui permet de revenir effectivement sur la question des violences en institution qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont l'objet du rapport de Jacques Toubon. Et nous sommes d'accord sur le constat, mais maintenant effectivement on doit dépasser le stade du constat et passer à l'action. C'était tout le sens de ce que j'ai présenté déjà dans ma stratégie de prévention et de protection de l'enfance il y a un mois, pour renforcer les contrôles dans les institutions, notamment de l'aide sociale à l'enfance, et refondre un peu la relation qu'ont les départements avec ces établissements dont ils ont la gestion. Parce que vous dites, tout est là, tout existe. En fait, dans les faits, assez peu. Les établissements de l'aide sociale à l'enfance n'ont pas tous des processus de remontée des incidents avec des responsabilités clairement définies, des retours d'expérience, etc. Les départements n'ont pas tous des plans de prévention et de gestion du risque, avec notamment tout un dispositif de contrôle. Et l'État, dont c'est la responsabilité, avec les départements, n'effectue pas tous les contrôles quand il y a des incidents qui sont remontés. Donc nous devons, c'est ça, c'est une des annonces également du plan de ce jour, nous allons travailler dans cette direction pour que des dispositifs existent, pour que quand il y a maltraitance, elle puisse être réglée et éviter qu'elle puisse être renouvelée.
Merci Adrien Taquet. La journée Les Enfants d'abord se poursuit évidemment toute la journée sur France Inter avec Combini. Merci d'être venu ce matin dans le 7-9, Adrien Taquet, pour un premier ensemble d'analyses et de propositions.